L'effort consenti pour comprendre l'univers est l'une des rares choses qui élève la vie humaine au-dessus du niveau de la farce et lui confère un peu de la dignité de la tragédie. Steven Weinberg, prix Nobel de physique en 1979. Chapitre 1. Orca 7013, mars 2173, un mois avant l'accident.
Voilà, Tom, nous tenons le record de la bière décapsulée le plus loin de la Terre. 50 millions d'années-lumière et des brouettes, rien qu'avec un seul forage. Personne n'est jamais allé aussi loin. C'est un joli lot de consolation.
L'autre ne répondit pas et dégusta la première gorgée. Yuri observa sa bouteille et continua.
« Moi, je trouve ça fascinant. N'importe où dans l'univers, on ne retrouve que les 118 mêmes éléments chimiques. L'homme vient là et en rajoute un 119e, la bière. »
Son coéquipier sourit et fit un mouvement de tête pour l'inciter à poursuivre.
« Note bien que ce n'est pas récent. La bière est un marqueur, pour ne pas dire le seul, de l'humanité. » Depuis l'Antiquité, toutes les civilisations, sans exception, ont découvert la fermentation des céréales. Sur la Terre, tu ne trouves pas un pays où tu ne peux pas boire de la bière. C'est encore plus universel que l'eau. Là où l'homme s'installe, il installe une brasserie.
Tom fit tourner lentement sa bouteille et contempla la mousse.
Tu as raison. J'aime bien boire une blonde loin de chez moi. Ça a quelque chose de rassurant, de familier. Ouais. Les humains ont sans doute développé le gène de la bière pour ça.
Tu crois que c'est universel? Je veux dire, est-ce que la première chose que l'on partagera avec des extraterrestres, c'est une canette de bière? Une sorte de constante extragalactique?
Le test ultime signe qu'une civilisation a atteint un stade avancé. C'est une idée, surtout que les levures sont des organismes monocellulaires à la base de tout.
Tom sourit à cette nouvelle théorie et balança ses jambes. Assis sur la table blanche, les deux hommes contemplaient l'immensité de l'espace au travers de l'écran panoramique. La musique de fond réglementaire empêchait le vide omniprésent de prendre trop de place. Yuri plongea son regard dans l'immensité noire. Il aurait fallu éteindre les lumières de la salle de repos pour distinguer la kyrielle d'étoiles. Mais pour leur morale, il était recommandé de maintenir les lumières durant tout leur cycle d'éveil. Il se retourna légèrement et ordonna à voix haute « Expert, affiche la maison. » Une vallée enneigée apparut sur l'écran. Tom plissa des yeux, incommodé par cette nouvelle clarté.
« Oh, on dirait qu'il a neigé !»«
Au mois de mars, c'est encore possible. »«
Déjà en mars ? Je ne vois pas les semaines filer. »
Yuri sauta de la table et fit quelques pas.
Pourquoi crois-tu que l'expert nous simule les saisons sur la Terre? Pour nous donner un repère tangible. Sans ça, j'ai toujours du mal à appréhender le temps qui passe à bord de ces satanés vaisseaux.
Quand j'étais petit, je faisais pousser des plantes avec ma mère. Elle disait que c'était un excellent exercice pour apprendre la patience et la mesure du temps.
Yuri toucha une branche enneigée sur l'écran et un frisson le traversa. De la patience, il lui en avait fallu. 35 ans de mission spatiale à miner l'espace-temps, sans aucun résultat probant. Engagé à l'agence de recherche de l'antimatière à sa sortie d'école, il en était à son 6e et dernier voyage. Depuis qu'il était mineur, il avait passé moins de 9 ans sur Terre. Aujourd'hui, à 59 ans, le commandant de l'Orca 7013 était un homme fatigué. Grand, les cheveux désormais gris, mais le regard d'un bleu métallique toujours tranchant, il avait ce profil longiforme de ceux qui ont passé trop de temps dans l'espace. Il jeta la bouteille à la poubelle et se tourna vers son jeune second.
« Sais-tu où est l'endroit le plus chaud de l'univers ?»«
Je dirais une naine blanche, vers le milieu de sa vie. »«
Non, tu cumules à peine à 300 000 degrés. C'est à Randers, au Danemark. »«
Comment ça ?»«
Dans un des derniers supercollisionneurs de hadrons de plus de 500 km de circonférence. » Quand deux particules se rencontrent, ça crée un plasma temporaire de quark et de gluon à plus de 15 milliards de degrés, soit la température des premières secondes du Big Bang.
Incroyable, et alors?
Attends la suite,
et l'endroit le plus froid de l'univers. Je dirais dehors, là, dans le vide.
Pas du tout. Encore à Randers, dans un des centres de calcul quantique. Les puces des ordinateurs sont refroidies pas loin du zéro absolu, à moins 273,15 degrés. Dehors, là, il fait 3 degrés de plus.
Tu te rends compte ?
Tom observa le fond de sa bouteille.
Oui, et alors ?
Yuri regarda son collègue pendant quelques secondes sans vraiment le voir. La perspective d'arrêter ce métier, la passion de toute une vie, changeait sa façon d'aborder les choses.
À moins de 5 kilomètres de distance, tu as les deux températures extrêmes de l'univers. Parfois, je me demande vraiment ce que l'on vient foutre ici si tout est déjà sur la Terre.
Nous faisons le plus beau métier du monde. Nous travaillons pour les générations futures, tu sais bien.
Yuri soupira. Il savait bien qu'en choisissant le métier de mineur d'espace-temps à des milliers d'années-lumière de son ranch, il avait sacrifié une vie terrestre confortable au profit d'une grande espérance, aujourd'hui réduite à peau de chagrin.
Quand j'étais petit, ma mère me racontait l'histoire des papillons monarques. Jusqu'à la moitié du 21e siècle environ, des millions de papillons partaient du Canada pour rejoindre le Mexique. Une migration annuelle de plus de 4000 kilomètres. Il fallait 6 générations de papillons pour atteindre leur but.
Tom baissa la tête. C'était au moins la 3e fois depuis le début de la mission que le commandant lui racontait cette anecdote. Il prit une boule de caricosam et la mâcha longuement.
Tu te rends compte de l'altruisme de ces bestioles? Sacrifier 3 générations pour que la 4e puisse batifoler au milieu des fleurs mexicaines?
Tom s'étira. Il connaissait la suite.
Parfois, j'ai l'impression qu'on est des putains de papillons monarques. On risque notre vie pour que des petits, petits, petits enfants puissent un jour tirer profit de l'antimatière, de son énergie et de la miniaturisation des centres de calcul quantique.
Ça a toujours été comme ça. L'humanité a progressé au fil des générations, chacune apportant sa petite pierre à la suivante.
Tom ouvrit le réfrigérateur et proposa une seconde bière que Yuri refusa d'un bref signe de main. Tom referma la porte et interrogea son supérieur. « À propos, l'analyse est terminée ?»«
Oui, la spectrographie des étoiles environnantes n'a rien donné. Aucune habitable, aucune trace de vie. Il fallait s'y attendre. »«
Et l'antimatière ?»«
La récolte des informations s'est terminée il y a 2 heures. »« Demain, on retourne au front de taille, au fort. » Et on retrouve notre vénérable système solaire. Là-bas, on enverra tout ça sur Terre pour connaître le résultat.
Tu crois que l'expert va nous annoncer une bonne nouvelle ?
Yuri secoua la tête. Sur l'écran, le soleil couchant teintait la neige d'une couleur orangée. Les branches ondulaient lentement, laissant tomber des blocs blancs.
On a vu des soleils dans les parages. On a détecté quelques planètes gazeuses. La spectrométrie n'a rien trouvé d'extraordinaire. Ce système ressemble étrangement à la 60aine de systèmes que j'ai déjà visités.
Tom baissa les yeux. Il ne se faisait aucune illusion sur les résultats. Mais il avait posé la question pour sonder le moral de son collègue. Ces derniers temps, la perspective d'une fin de carrière vierge de tout résultat positif avait tendance à déprimer son supérieur. Sur l'écran, la nuit était tombée. Et des flocons illuminaient d'une pâle lumière l'obscurité. Tom se souvint de ses cours là-bas à l'Institut. Normalement, depuis le Big Bang, l'antimatière et la matière devraient être également répartis dans l'univers. Problème. À ce jour, personne n'avait réussi à localiser cette fichue antimatière à part quelques particules éparses dans l'atmosphère, et cette asymétrie intriguait les scientifiques depuis très longtemps. Son existence avait pourtant été formulée depuis plus de 250 ans par un certain Dirac. Vers la fin du XXe siècle, un centre de recherche avait même réussi à en générer quelques particules et à les stocker. Pourtant, depuis que l'agence de recherche de l'antimatière avait été créée en 2126, aucun vaisseau n'avait réussi à en détecter parmi les multiples strates de l'espace-temps répertoriées par l'Institut de la stratigraphie.